Vous écoutez IDFM, il est 14h.
IDFM Radio Anguin, voici une nouvelle heure avec un nouvel agenda des villes et rendez-vous samedi et dimanche sur la commune de Montmagny pour une baby brocante de 9h à 18h à la salle des fêtes, avenue de la division Leclerc. Vous pourrez trouver des vêtements, des jouets, des objets de périculture et bien d'autres accessoires. La baby brocante, c'est à Montmagny samedi et dimanche. L'agenda des villes, c'est aussi les instants bistrot, le moment des amis dimanche prochain, place de la Fontaine aux Pèlerins sur la commune de Saint-Prix. Dégustation du vin et du jus de pomme 100% saint-pricien sont prévues lors de ces instants bistrot proposés par la ville de Saint-Prix. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur le site de la ville. Et toujours dimanche prochain, rassemblement de voitures anciennes sur la commune du Plessis-Bouchard, un rendez-vous mensuel pour admirer de très belles carrosseries de toutes marques, organisées par l'Auto-Rétro Club Ouest Parisien, l'occasion de prendre de belles photos et de rencontrer des passionnés. Rendez-vous plus précisément ce dimanche 9 juin de 9h30 à 12h30 sur le parking de l'école de musique Parc de la Mairie, situé rue Pierre Brosselette au Plessis-Bouchard. C'était l'agenda des villes sur IDFM Radio Anguin.
Bonjour à tous, Audrey Lamolly et je suis ravie de vous retrouver sur IDFM Radio Anguin dans l'émission La Parole aux Associations, une émission dédiée entièrement aux associations du Val d'Oise et à ceux qui les font vivre. Cette semaine, je reçois non pas une, mais deux associations. Alors leur point commun, l'envie de partager leur amour pour leur culture, de cœur ou d'origine. Elles sont toutes les deux intrinsèquement liées à la musique, à la danse, au patrimoine immatériel, à préserver et à valoriser. L'une s'est créée en 2007, l'autre en 2012. Pour la maison, c'est Garavane, c'est l'île Maurice et l'océan Indien. Pour Coréard, c'est l'Inde. Pour nous parler de ces deux associations, j'accueille cet après-midi Hélène Savoie, directrice artistique chez Coréard, également chorégraphe et danseuse, et Kailash Sissoungkur, trésorier de la maison c'est Garavane et de Coréard, et passionné pour la ravane, instrument emblématique de la musique de l'île Maurice. Bonjour à tous les deux et bienvenue dans l'émission.
Namasté.
Bonjour.
Bonjour. Au sommaire de cette émission, je vous propose d'abord d'en savoir un peu plus sur nos invités dans la rubrique Portrait d'engagé. Puis Hélène nous emmènera en Inde avec son association de danse indienne Coréard. Et en dernière partie d'émission, nous en apprendrons davantage sur la richesse du patrimoine créole et plus particulièrement sur le Séga typique avec Kailash et son association La Maison Séga Ravane. Alors tout d'abord, Hélène, Kailash, je vous propose de faire votre portrait d'engagé pour mieux faire votre connaissance. Est-ce que vous êtes prêts et d'accord?
Oui, ok, pas de souci.
Avec plaisir.
On y va. On est très contents d'être là.
Et de même. Alors avant de parler de vos associations, est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu votre parcours, ce que vous faites en dehors de vos fonctions associatives? Hélène.
Alors en fait, moi je suis professeure de danse indienne et d'éveil corporel. Donc j'ai aussi, à côté de mon association, une activité en auto-entrepreneur. Et je suis aussi régulièrement chorégraphe pour des mariages, pour des événements, des enterrements vie de jeune fille. Voilà, mais essentiellement, j'ai une activité qui est basée sur la danse, puisque c'est mon métier, ma passion, et que j'allie les deux avec grande joie tous les jours.
Et uniquement la danse indienne.
Et alors, je fais de l'éveil corporel, donc qui est basé sur des danses du monde, avec principalement la danse indienne, mais j'ai aussi, du fait de mon cursus, une formation en western dance. On appelle ça western dance, puisque c'est en opposition avec la danse indienne, mais ça regroupe la danse contemporaine, le jazz et la danse classique. Donc ce sont des bases que j'utilise dans les cours d'éveil, mais aussi dans le Bollywood. J'expliquerai aussi par la suite qu'est-ce qui est présent dans Bollywood.
Merci. Kailash, qu'est-ce que vous faites en dehors de vos fonctions?
Moi, en fait, je fais quelque chose qui est complètement en dehors de mon activité de l'association.
Comme souvent, hein, d'ailleurs, ouais, hein, chez les projets associatifs.
Moi, je suis consultant dans une société qui de conseil. et qui est spécialisée dans l'encadrement, la formation des dans le milieu professionnel. Donc on crée, on conçoit et on crée des contenus de formation. Voilà, donc pour aider les gens à mieux travailler ensemble.
Alors Hélène, quel lien vous avez avec l'Inde ? D'où vous vient cette passion pour ce pays, cette culture ?
Alors
vous n'êtes pas indienne.
Non, en fait, moi mes origines, ce sont en fait, elles sont normandes, bretonnes d'un côté, et aussi pieds noirs du Maroc par ma mère. Et en fait, j'ai beaucoup voyagé quand j'étais jeune, puisque mon père était dans la marine, donc j'ai vécu en Afrique, on va dire 4 ans de ma vie, donc à Mayotte, aussi à Djibouti, et j'ai vécu 2 ans au Sénégal, donc à des périodes diverses en âge. J'ai vécu au Sénégal adolescente, à 16 ans, et entre 6 et 7 ans, j'ai vécu à Mayotte et à Djibouti. Donc ça a été pour moi des rencontres, on va dire que ça m'a ouvert les portes de différentes cultures, et ça m'a permis en fait de m'ouvrir à des musiques exotiques, donc que ça soit la musique africaine, la musique des Comores, et à une identité autre que celle de la France en fait.
Et de la Normandie.
Et de la Normandie, hein. et des voilà exactement, et du Kunaman et tout ça. Donc voilà. Donc en fait, du fait de ces rencontres, je pense que j'ai eu besoin d'un ailleurs. Quand je suis rentrée en France à l'âge de 10 ans, j'ai eu envie, je pense, d'aller vers ailleurs. Et donc
déjà à 10 ans, vous aviez envie de revoyager, c'est-à-dire que il y a des enfants comme ça qui ont été élevés un peu partout dans le monde et qui disent moi j'ai envie de me poser. Vous, ça a eu l'effet inverse, c'est-à-dire envie tout de suite de repartir découvrir
qu'en fait,
d'autres pays.
Exactement, parce qu'en fait j'ai eu la chance de faire de la danse. Très jeune, quand j'étais à Mayotte, on n'avait pas d'école là-bas. On faisait les cours par correspondance. Donc mon seul ancrage, on va dire, c'était mon seul cadre d'école, c'était l'école de danse. Et donc en fait, j'étais donc immergée dans une école qui se voulait être conservatoire, puisque la prof de danse qui nous enseignait, c'était une Française qui était venue nous enseigner donc toutes les bases de la danse, jazz, classique, et qui proposait aux enfants de Mayotte d'avoir une formation avec les pointes, avec vraiment des techniques qui sont quand même pointues. Donc pour moi c'était très important, mon cours de danse c'était très important. Et c'est vrai que quand je suis rentrée en France, j'ai le fait de me retrouver à l'école dans un cadre voilà qui était différent, avec finalement une sorte de cloisonnement. J'avais besoin d'une évasion. J'avais besoin d'une évasion avec la musique et la danse que je ne retrouvais pas forcément. Voilà. Donc, et c'est revenu. Je pense que ça s'est ancré dans ma vie, c'est resté dans ma vie. Et ça s'est exprimé plus tard dans mon choix de vie de devenir danseuse quand j'étais donc étudiante en philosophie. Pour revenir à ce que vous me disiez, en fait, j'ai eu l'opportunité d'aller faire un voyage humanitaire en Inde. Chez Mère Teresa, en fait, partir avec une amie faire de l'humanitaire. Et c'est là où j'ai rencontré la danse indienne.
Et vous êtes partie combien de temps ?
2 mois.
2 mois.
Je suis partie 2 mois, donc en 2004. J'étais alors étudiante en philosophie et en fait, je suis partie donc travailler dans les maisons qui accueillent les orphelins, les femmes qui sont issues de la prostitution, qui sont finalement, on va dire, sauvées de ça, ou qui sont hébergées à partir d'un certain âge, puisqu'elles ne sont plus en âge, heureusement aussi, de se prostituer. C'est-à-dire qu'elles sont, elles vont dans ces maisons qui sont entretenues par des sœurs. Et donc, nous, en tant que bénévoles, nous venons leur apporter quelque chose. Alors, ça peut être à travers de la lecture, de la musique, de la danse, des jeux. Et donc, moi, c'était la danse. C'est-à-dire que je faisais des spectacles pour ces enfants orphelins.
Mais pas de danse indienne tout de suite ?
Non, pas du tout. Non, de danse, donc tout ce qui était Disney, voilà. C'était toutes les musiques de Disney, Pocahontas. Donc je leur faisais un show à la Disney, quoi. Donc c'était vraiment incroyable. Et c'est finalement un musicien à Calcutta qui m'a dit « Mais pourquoi tu ne fais pas de la danse indienne ?» Pourquoi ? Donc j'étais à Calcutta, hein, puisque Mère Teresa, elle se trouvait à Calcutta. J'ai commencé donc à rencontrer ce musicien, à le côtoyer, puis il m'a proposé de faire de l'Odissi, qui est la danse traditionnelle de l'Orissa, avec une grande danseuse qui s'appelle Dipanita Roy, qui m'a reçue chez elle régulièrement, et c'est là que j'ai commencé mon apprentissage de danse indienne. Donc c'était un pur hasard, ça a été une pure rencontre. une rencontre artistique en fait. Et donc je menais en parallèle de mon travail avec ces enfants cette formation en Odyssée pendant 2 mois.
Et alors, je crois que vous avez un nom de scène. Alors, je vous laisse d'abord le prononcer avant que je le prononce.
C'est Menakshi.
Menakshi. Et voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, en fait,
c'est indien ?
C'est indien, oui. C'est le nom d'une déesse très connue. Et donc, c'est entre guillemets, c'est la déesse. C'est une déesse qui est du foyer. Elle a plusieurs. Vous savez, comme les dieux ont plusieurs. Comment dire, ils définissent plusieurs choses. Donc c'est vrai que Menakshi, c'est vraiment une déesse du foyer, une déesse de la sérénité. Et surtout, c'est le nom d'une grande actrice et danseuse, Menakshi Seshadri, que j'admire profondément et qui a dansé une danse très connue qui s'appelle le Tandav, et qui est une danse très martiale, très énergique, et qui est vraiment pour moi... on va dire l'allégorie de ce que représente la danse indienne pour moi, c'est-à-dire ce mélange entre la sensualité, la féminité et la force. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi la danse indienne, parce que pour moi, c'était vraiment cette alliance qui m'intéressait dans mon art.
Et alors, ce nom Menakshi, c'est vous qui l'avez choisi ? On vous l'a choisi pour vous ? Ou c'est à un moment donné, pourquoi vous avez eu envie de prendre un nom d'artiste, vous êtes dit ça fait partie aussi de la danse indienne que d'avoir un nom qui soit pas Hélène.
Alors en fait non, c'est pas venu comme ça. C'est vrai qu'en fait c'est à la base j'aimais ce prénom là quand je suis arrivée en Inde, et une de mes profs qui m'a reçue quand j'étais à Jaipur en 2008 m'a dit est-ce qu'il faut que je te donne un nom de scène, en fait. Il faut que je donne un nom de danseuse. Et moi, je lui ai demandé, je lui ai dit, voilà, je voudrais m'appeler Menakshi. Et elle m'a dit, oui, alors, ça te va très bien. Et donc, c'est comme ça que
c'était adopté.
C'était adopté. Donc, elle a validé. Après, c'est vrai que je l'ai moins utilisé en France. Je pense parce que j'étais fière de mes origines aussi, de mon parcours. Et je trouvais que, finalement, englober tout mon parcours dans un nom indien, ça ne me ressemblait pas, dans le sens où... j'ai aussi quand même la danse indienne, c'est aussi de la fusion pour moi, et Bollywood c'est de la fusion, et j'avais pas envie qu'on m'étiquette comme une femme qui voulait devenir indienne, puisque je ne renie pas mes origines. Pour moi je suis Hélène, voilà, d'origine française, avec mes origines aussi du pied noir du Maroc, donc je voulais vraiment donc j'ai gardé Hélène comme prénom. Souvent on me présente comme Hélène, et ça c'est mon nom à moi, Menakshi, c'est mon deuxième nom en fait. Voilà.
Merci Hélène. Alors Kailash, est-ce que alors vous êtes trésorier à la fois chez Korea et à la maison Segaravan.
C'est vrai.
Et alors est-ce que vous êtes né à Maurice ?
Oui, je suis né à Maurice.
Et est-ce que vous pourriez nous présenter un peu votre île pour ceux qui la connaissent pas ?
Alors
brièvement, hein, parce que...
Oui, c'est vrai, c'est ça. Je me demandais pourquoi j'allais commencer. Effectivement, l'île Maurice, les Mauriciens décrivent Maurice comme, effectivement, comme le paradis de l'océan Indien, comme la clé de l'océan Indien. Ça fait partie de l'emblème. Et l'île Maurice, avant d'être effectivement une île paradisiaque, c'est aussi une île où il y a un mélange des cultures. C'est la force de l'île, c'est le mélange des populations différentes, issues de différents milieux. Maurice était vierge, était occupée que par des végétaux, quelques animaux, quelques centaines d'années. Et effectivement, c'est l'homme, la découvrant, qui l'ont peuplé. Et toutes ces communautés-là ont tellement été aveuglées, pas dire, mais charmés par la beauté de l'île, qui y sont restés et qui ont développé l'île. Bon, il y a eu bien sûr beaucoup d'histoires dans l'île, comme beaucoup d'autres pays et îles à cette époque-là, pour la colonisation, etc. Et depuis l'indépendance, il y a 50 ans maintenant, un peu plus de 50 ans, les Mauriciens se développent, s'enrichissent, se collaborent entre eux pour faire un vrai pays où les gens se s'entraident. C'est ce qui fait cette beauté avant même pour moi, hein, à mon sens, avant même la beauté du paysage. Effectivement, c'est une île où il y a des belles plages, on a une belle beauté sauvage, une belle faune, Et pour situer l'île, pour ceux qui ne la connaissent pas, donc c'est, elle se situe dans le sud de l'océan Indien, pas trop loin de l'île de Réunion, au niveau du sud de Madagascar, si vous voyez un petit peu. Et c'est là que vous allez nous trouver, quoi, l'île Maurice.
Et alors, vous avez quitté l'île Maurice à quel âge ?
Voilà, moi, en fait, j'étais tout petit, hein, j'avais même pas 4 ans. Donc,
vous en avez des souvenirs ou pas vraiment ?
J'ai quelques clichés, effectivement, qui me restent. Qui me reste, je pense. Et alors, je sais pas si ça vient des quelques photos que j'ai vues, j'ai quelques images, j'ai quelques souvenirs, très brefs. Et j'ai beaucoup de famille encore là-bas. Et
vous y retournez?
De temps en temps, effectivement, c'est.
Parce que c'est pas donné d'aller à l'île Maurice. Week-end, quoi.
Non. Ah, il faut. Ensuite, pour nous Mauriciens qui avons beaucoup de famille, il faut y rester au moins minimum 3 semaines pour pouvoir profiter.
Pour voir tout le monde et se reposer un tout petit peu et
exactement,
profiter de l'île.
Oui, tout à fait.
Alors vous êtes trésorier des deux associations. Comment ça se fait que vous êtes trésorier ? C'est parce que la fonction vous plaît ? Parce qu'on vous a dit
En fait, c'est là, c'est parce que j'aimais, en fait, je voulais avoir aider à mon niveau. J'ai découvert la maison du Segaravane peut-être une dizaine d'années, mais je n'étais pas encore intégré, je n'étais pas encore impliqué. Et ensuite, il y a à peu près 4 ans ou 5 ans, j'y suis allé j'ai rencontré les gens qui faisaient partie de cette association pour moi-même, pour me retrouver, me retrouver dans ma culture. Donc l'association donnait des cours de Ravane, donc qui est l'instrument typique du Sega.
Et une sorte de tambour.
Effectivement, c'est un grand tambour. J'ai apporté un modèle là, dans mon sac, là, à côté, pour vous montrer. Donc voilà, c'est un grand tambour qui est fait dans un cercle, qui est une peau de chèvre tendue dessus. Et donc, moi, j'étais parti pour apprendre à en jouer. Parce que j'en avais un à la maison, mais je ne savais pas en jouer. Vraiment, on tapait dessus, mais sans savoir. Et donc l'association donnait des cours avec une méthode qui a été créée par l'artiste Ménoir. Et dès le premier jour, dès le premier cours, j'ai été séduit par la passion que le président Christian Sarah pouvait transmettre et par aussi la passion des différents élèves, des différentes personnes qui composaient l'association. Et après quelques mois, j'ai participé à une réunion. Et ils ont cherché un trésorier. Et je me suis dit, pourquoi pas moi ? Voilà, je me suis dit, je vais m'investir à mon niveau, avec mes capacités, pour aider cette association qui était demande qu'à se développer.
Et alors, c'était votre premier engagement bénévole ?
C'est vrai, c'est mon premier engagement bénévole.
Oui, c'est la première fois.
Tout à fait.
Et alors, quel est l'objet de l'association de la maison Segaravane ? Qu'est-ce qu'on y fait ?
Alors
on y apprend la Ravane ?
Oui, on peut y apprendre la Ravane, bien sûr. Le moteur qui a permis de créer cette association, c'est la promotion et la sauvegarde du patrimoine culturel mauricien. Donc c'est pas que la musique, c'est aussi la danse du Sega, c'est aussi l'art culinaire, c'est aussi l'art pictoral, donc les peintures, les œuvres écrites qu'on connaît peu. Donc cette association essaie en fait effectivement de réunir différentes formes d'art regrouper différents artistes qui venant de l'île Maurice. Par exemple, nous avons bien sûr il y a le parrain de l'association qui est Ménoir, qui est un artiste très engagé et qui développe un art assez différent du Sega typique, mais qui utilise le Sega typique le modernise et le sensibilise avec sa propre façon de jouer les instruments.
Alors vous allez nous expliquer après de quoi on parle quand on dit Sega typique. Vous êtes aussi trésorier de Coréa. Quel lien vous unit, Hélène Kailash ? Vous êtes.
C'est une rencontre.
Une rencontre.
Une rencontre d'Hélène et moi.
Pas dans le cadre de vos activités associatives ?
Non, une rencontre. Bah,
parce que vous partagez votre vie aussi voilà, ensemble.
C'est une rencontre sentimentale.
J'ai cru qu'il allait dire qu'on était amis. En fait, c'est mon mari et puis on a une petite fille qui s'appelle Chanty, qui a 1 an. Et en fait, on s'est connus. Voilà, c'est notre histoire d'amour qui a fait que on s'est retrouvés à partager finalement notre univers. Et qui dit partager notre univers dit partager notre passion pour lui son île et moi l'Inde et la danse indienne. Donc finalement ça fait partie de nos vies et de notre quotidien. Et puis bah étant donné que moi je ne suis pas forcément très douée et puis que je ne pouvais pas non plus prendre toutes les places dans l'association, étant donné qu'on a une des directrices artistiques, puisque moi je suis directrice artistique de Coréa. Nous étions 2 à l'époque, et Aurélie Kong, que je salue d'ailleurs au passage, qui j'espère nous écoute aujourd'hui, est partie à Marseille s'installer, et donc finalement n'a pas pu continuer son activité dans l'association. Et puis au niveau de la trésorière, c'était pareil, elle est partie aussi dans une autre région de la France. Donc il a fallu que je trouve un trésorier. Donc comme il était déjà trésorier,
vous êtes dit bon allez.
Mais c'est vrai qu'il était. J'ai vu qu'il était honnête et sérieux. Je me suis dit.
Puis il peut pas vous dire non. Donc ouais,
voilà exactement. Donc il s'est retrouvé trésorier de l'association Coréa, sachant que c'est pas forcément une grande fonction non plus parce qu'on n'est pas une énorme association. Hein. Je vais pas dire. On est vraiment une petite association.
Alors vous êtes votre association Coréa est basée à Herblay.
Oui.
Alors que la maison Ségaravane est basée à Paris, avec un rayonnement plus large que la ville de Paris. Hélène, qu'est-ce qui vous a donné envie de créer une association Coréart ?
Alors en fait, notre association Coréart a été créée par justement une rencontre artistique, encore une fois, donc avec Aurélie Kong, qui était donc elle, qui est toujours d'ailleurs peintre, elle fait de la peinture traditionnelle chinoise et elle est danseuse contemporaine. Et maintenant, en fait, elle s'est reconvertie puisqu'elle était danseuse à la base et elle fait maintenant du Qigong. Elle a fait une formation pendant 3 ans et elle est professeure de Qigong. Et donc cette rencontre a fait que on s'est aperçu qu'on avait du mal à proposer des ateliers métissant nos activités, puisqu'on avait vraiment envie de mélanger nos savoirs et de proposer à des enfants scolarisés ou des enfants dans des centres d'animation des activités mêlant la danse indienne, la danse contemporaine et la peinture traditionnelle chinoise. Donc ça fait beaucoup, beaucoup de choses en même temps, mais on voulait vraiment organiser ça sous forme d'atelier. Puisqu'on avait exactement la même énergie, elle était aussi métisse, elle est aussi métisse, hein, elle est franco-chinoise. Donc on avait envie de mêler nos univers et c'était donc l'objet de notre association. On a créé Coréart pour cette raison-là.
Merci beaucoup Hélène Kailash d'avoir bien voulu nous en dire un peu plus sur vous. Alors je vous propose de poursuivre notre conversation et de découvrir plus concrètement ce que font vos associations juste après avoir écouté un extrait de musique indienne. Alors Hélène, est-ce que vous pouvez nous présenter ce morceau ?
Oui, tout à fait. Alors c'est le Vande Mataram qui est l'hymne indien, qui est un des 2 hymnes indiens très connus en Inde, qui est une forme de prière, une louange à Mère Nature, puisque en Inde la nature est considérée comme un cadeau des dieux. Donc Vande Mataram, ça veut dire remercions, prions notre Mère Nature. Et donc c'est une sorte de prière louange. Et là c'est la version de Bharati qui est très connue. Hein. Bharati c'est
je l'ai vu 2 fois le spectacle.
Voilà, c'est vraiment c'est grâce à Bharati que la danse indienne s'est fait connaître en France et en Europe. Et donc la version c'est une version que j'adore. Et moi à chaque fois que j'écoute ce Vande Mataram, ça me rappelle plein de souvenirs. Que c'est le quotidien de l'Inde.
On écoute Vande Mataram de Bharati sur IDFM Radio Anguin tout de suite. Shabalam Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. Toujours sur IDFM Radio Anguin dans l'émission La Parole aux associations, où nous recevons cet après-midi Hélène Savoie, directrice artistique à Coréar, et Kailash Sisunkur, trésorier de Coréar et de la maison Segaravan. Alors Hélène, pouvez-vous nous présenter un petit peu plus concrètement ce que fait votre association Coréar ?
Oui, tout à fait. Alors donc Coréar, donc comme je vous l'ai expliqué auparavant, c'est une association qui cherche à tisser des liens avec d'autres cultures que la culture indienne, hein, puisque je vous ai parlé de la culture franco-chinoise, de la peinture traditionnelle chinoise. Donc en fait, à la base, Coréar, c'est une association qui propose des cours de danse indienne. Donc on en propose à Herblay. Donc je vais vous donner les horaires, hein, dès maintenant. Donc c'est les mardis de 17h30 à 18h pour les enfants.
À partir de quel âge, les enfants ?
Alors, à partir de 5 ans. C'est un groupe multiniveau, puisque la danse indienne, moi, je l'enseigne dans mon association de manière à l'indienne, on va dire. C'est-à-dire que je propose dans un cours plusieurs niveaux. Et il y a une chorégraphie qui est proposée, et puis les enfants, selon leur niveau, suivent. Donc, je trouve que cet apprentissage est très intéressant, puisque finalement, ça leur permet de vraiment voir de quoi ils sont capables, leur donner un but qui est pas forcément tout à fait toujours réalisable dans l'immédiat, mais ils comprennent en fait que comme dans un esprit martial, qu'en fait il faut vraiment passer par des étapes et savoir qu'on peut pas toujours tout faire d'un coup. C'est pas en un mois qu'on devient une superbe danseuse indienne, il faut du temps. Donc vraiment, le fait qu'il y ait ces multiples niveaux dans le cours, ça permet aux enfants vraiment d'être beaucoup plus sages, entre guillemets, beaucoup plus concentrés, parce qu'ils ont toujours devant eux quelque chose qui est beaucoup plus dur que pour eux, quoi.
Donc c'est multiniveau ?
Oui.
Et est-ce que c'est multi-âge ? Est-ce que c'est que pour les enfants ? Est-ce que
Alors, il y a de 5 à 12 ans, on va dire, à peu près. J'ai mon premier cours et puis ensuite, j'ai un deuxième cours de 19h à 20h30 qui est proposé aux adolescents et aux adultes. Donc, c'est à l'espace municipal associatif, rue des écoles. à Herblay, donc du côté de près de l'avenue du Bolder. En fait, c'est perpendiculaire à l'avenue du Bolder pour ceux qui veulent venir nous voir. Et donc voilà, ce sont des heures qui sont régulières toute la période scolaire. Et puis avec mon association, nous proposons aussi des scènes et des stages dans différentes villes. Par exemple, je vais peut-être en proposer un à Houille, à Sartrouville, voilà, dans les villes environnantes. Nous avons aussi la possibilité, ça c'est plus rare en ce moment puisque je suis une jeune maman, donc j'ai moins de temps, mais nous avons aussi la possibilité de proposer aussi des stages avec d'autres artistes. Donc comme je vous avais dit avec mon ancienne amie et collègue Aurélie Kong, mais aussi nous avions aussi il y a quelques années travaillé avec un peintre d'origine béninoise où on proposait justement de danser dans des vernissages, voilà, de rencontrer d'autres univers artistiques.
Alors, qu'est-ce qui motive vos adhérents à venir faire de la danse indienne ?
Alors, c'est pareil, c'est la passion. Elles ont une passion, mes élèves, d'ailleurs, je les salue. Et elles ont une passion incroyable pour la danse indienne, pour l'univers indien. C'est vraiment tout un univers pour elles qui s'ouvre à elles avec la danse. Et donc, elles sont... Elles recherchent, la plupart, les trois quarts, recherchent vraiment une immersion totale dans l'univers indien. C'est-à-dire qu'elles viennent, elles connaissent les musiques, elles connaissent la base, elles connaissent les codes vestimentaires. Et pour elles, c'est, en plus de la danse, c'est leur moment de féminité aussi. Voilà, comme je vous dis, c'est vraiment un respect du code, voilà, un respect de la tradition
indienne. Alors, on parle de danse indienne. Est-ce qu'il y a plusieurs... danse indienne, type de danse. On a parlé du Bollywood, mais vous avez évoqué un autre type de danse indienne.
Le Bharatanatyam.
Voilà. Oui. Il y en a combien ? Il y en a beaucoup de danse indienne ? Il y en a une ou deux ?
Ah non, il y en a beaucoup. Alors, en fait, il y a des danses classiques indiennes. Il y en a beaucoup. Il y en a sept qui sont répertoriées. Et nous avons donc aussi ces sept danses. Donc, je vais en citer quelques-unes. Donc, il y a le Kathak qui vient du Nord.
Celle que vous enseignez ?
Non, alors le Kathak, c'est celle du Nord. C'est une danse à la base qui est une danse de courtisane et qui est originaire du Nord de l'Inde. Donc, tout ce qui est Rajasthan et qui a été donc très, très marqué par les Moghols aussi. Donc, il y a eu toute une redéfinition de cette danse qui est maintenant basée essentiellement sur des footwork, c'est-à-dire des percussions. Donc, il y a un tabla et puis la danseuse va travailler sur des rythmes et va proposer donc tout un passage de danse rythmé avec des notes et des rythmes qu'elle va dicter elle-même en chantant. Donc ça, c'est le Kathak. Ensuite, il y a le Bharatanatyam, qui est une danse qui vient du Tamil Nadu, qui est donc la danse que moi, j'ai pratiquée pendant 3 ans en Inde, enfin 2 ans en Inde et ensuite 1 an en France, puisque j'ai commencé assez tard le Bharatanatyam, et qui est une danse qui est originaire des temples. Ce sont les Devadasi, c'est-à-dire les femmes qui étaient dévouées, qui servaient dans les temples, qui la pratiquaient. Donc elle a beaucoup d'histoire, elle est extrêmement, elle a vraiment une grande, comment dire, c'est une danse qui est restée longtemps et qui a une tradition très forte. Voilà.
Donc celle-là, est-ce que vous l'enseignez ou...
Alors non, je ne l'enseigne pas en tant que professionnelle parce qu'il faut des années d'apprentissage pour maîtriser cette danse. Par contre, j'ai les bases et donc je propose dans mes chorégraphies Bollywood des pas de ces danses, Kathak et Bharatanatyam.
D'accord, voilà. Donc vous, à Coréar, on apprend essentiellement le Bollywood.
Oui, tout à fait, exactement.
Et est-ce que vous pourriez nous le définir, le Bollywood, même si on commence à en avoir
oui.
une idée ? On voit beaucoup de couleurs, beaucoup de danseurs, quelque chose de très énergique.
Exactement, oui.
Avec un fond d'histoire d'amour ?
Assez souvent, oui. Même si ça évolue, heureusement que maintenant, on a une diversification des thèmes. Alors, la danse Bollywood, c'est la danse du cinéma indien, donc qui a été extrêmement... qui s'est développée avec le temps. Donc, au début, c'était des danses qui étaient... essentiellement basé sur les danses traditionnelles, avec un côté un peu plus punchy, un peu plus sensuel, un peu plus osé, on va dire. Hein. Ça a été l'ouverture vers la liberté d'expression. Hein. Le cinéma indien, ça a été un moyen pour les Indiens de se libérer du carcan des traditions, du fait de... Oui, les femmes avaient une place...
Qui est un pays très hiérarchisé, avec des codes
Donc déjà,
très, très
moi j'ai envie de dire que si on doit définir la danse Bollywood, il faut la définir comme... un moyen de s'affranchir de codes qui sont très fermés de la danse indienne sans forcément les renier, en fait. Donc on a un mélange donc de ces danses, de ces pas de danse traditionnelle mélangés à des pas de danse folklorique aussi, puisqu'il y a aussi les danses folkloriques en Inde qui sont très présentes. Et des influences diverses. Ça peut être très bien de les influences de l'Europe, du rock and roll, de la salsa, donc danse latine. On a aussi parfois des influences même des danses africaines. Hein. Donc c'est une grosse fusion. Hein. La danse Bollywood aujourd'hui, c'est très difficile de la définir puisqu'elle est. Moi j'ai envie de dire c'est de la comédie musicale aujourd'hui, indienne. Voilà.
D'accord. Résumé. Et alors, derrière la danse indienne et je pense même le Bollywood, hein, il y a souvent quand même une dimension esthétique et spirituelle autour de ces danses. Est-ce que c'est des volets, des bribes que vous apportez aussi dans vos cours, une explication, une démarche oui. J'imagine que chaque danse a peut-être une tenue ou une posture ou une spiritualité différente. Voilà. Est-ce
c'est
que
tout
vous
à fait ça, oui.
vous en parlez aussi un petit peu?
Exactement. Alors à chaque fois qu'on là pour la, pour d'ailleurs je vais en profiter pour faire une petite annonce, c'est qu'on va danser le 21 juin dans le centre d'Herblay près du café du commerce. Nous allons faire une présentation justement de notre travail avec mes élèves qui ont travaillé en fait sur deux chorégraphies qui sont très connues pour ceux qui connaissent Bollywood. Je pense qu'ils vont s'y retrouver. Donc nous avons Maredala de Devdas et Nimbuna du film Umdil Deshub Kesanam. Et donc pour revenir à votre question, ces danses-là par exemple, on a vraiment pris le temps de mettre un costume très très spécifique. Et donc, il s'agit d'une blouse et d'une blouse. Donc, c'est un haut court et une jupe avec une dupatta. Et donc, en fait, chaque danse a son univers, ses codes. Par exemple, Maredala, c'est une danse qui est en fait dire sous influence des danses du nord de l'Inde. Donc, il y a des passages de Kathak. Et c'est une danse qui est très intériorisée. Donc, justement, je vais expliquer dans mes cours l'abhinaya, qui est l'expression du visage, très très importante, puisque ça fait partie intégrante de la danse. Hein. L'expression du visage dans la danse indienne, c'est très important. Et le mudra, qui est la gestuelle, qui est présente dans toutes les danses, que ce soit les danses traditionnelles, les danses folk et la danse Bollywood. Pareil, à chaque fois que mes élèves ont une chorégraphie avec un mudra spécifique, je vais bien prendre le temps de leur expliquer, aussi de leur donner une traduction de la danse, pour qu'elles puissent comprendre ce qu'elles font, parce que c'est très important. C'est du théâtre dansé, en fait.
Oui, il y a un message dans la danse, hein, c'est très...
Voilà, en fait, c'est ça qui attire aussi ces femmes-là, et moi en premier aussi, d'ailleurs, puisque je suis spécialisée maintenant sur cette danse, mais enfin, je suis professeure de danse Bollywood. C'est ce qui m'a attirée, c'est vraiment le fait qu'on est dans une émotion. On n'est pas que technicienne de la danse, on transmet des émotions. On est dans un théâtre dansé, vraiment. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que quand je rentre sur scène, et j'explique ça à mes élèves à chaque fois, je leur dis, mais pensez à votre public. Parce que c'est eux qui sont les plus importants. C'est-à-dire que vous allez les faire rentrer dans un univers, les faire rentrer dans une émotion. Et évidemment, comme vous le disiez justement, très justement, c'est souvent des histoires d'amour, des dilemmes de vie.
Des familles qui ne veulent pas que deux personnes s'unissent. C'est Roméo et Juliette un peu pour nous, quoi.
Exactement. Et donc, en fait, finalement, je pense que plus ou moins tout le monde s'est retrouvé dans ces dilemmes, que ce soit dans sa vie amoureuse, que dans sa vie professionnelle. On a toujours des choix de vie dans nos vies. Et je pense que là, c'est vraiment le fait d'exprimer ça sur scène. Je sens que les gens, enfin, le public français est très réceptif. Hein. Même s'ils sont pas indiens.
Moi qui suis allée à un mariage indien il n'y a pas très longtemps, j'ai été frappée par, avec ma culture française. Donc, la famille du marié qui est indienne est venue faire un show, un spectacle complètement, je crois, improvisé. Mmh. Et alors, on avait les enfants qui dansaient. Et après, là où j'étais frappée, c'est les mamans avec leurs filles, leurs ados. J'étais étonnée de voir comment naturellement une mère et une fille danser ensemble, alors que moi, pour danser avec ma mère, faut quand même qu'elle me traîne un petit peu. On n'a pas l'habitude de partager la danse avec sa famille. Je sais pas si vous faites des ateliers parents-enfants
Justement, c'est marrant, c'est exactement. En fait, j'ai remarqué ça depuis que je suis maman. j'ai vraiment eu envie de partager ça avec ma fille. Bon, elle est encore jeune, elle a un an, donc elle a le temps encore. Mais j'avais vraiment envie de retrouver ce que vous dites justement, c'est-à-dire cette capacité à dialoguer dans la danse, qu'on n'a pas en France. C'est-à-dire qu'en France, les gens, on va leur dire, vous venez danser, et même dans une boîte de nuit, parfois on les voit, ils ont du mal à se libérer, ils sont dans un code encore. Et donc du coup, en fait, moi j'avais vraiment envie de partager ça, c'est-à-dire à travers les danses tropicales. Donc là, en l'occurrence, c'est un atelier par enfant que je vais proposer à partir de cet été et durant les vacances scolaires, qui justement permettra aux parents de danser avec leurs enfants.
Merci Hélène de nous avoir aussi bien présenté Coréard. Je vous propose de poursuivre notre conversation juste après avoir écouté, alors là je me tourne vers Kailash, un extrait que vous avez choisi qui s'appelle...
C'est la mer dans le sens l'océan, la mer, etc. C'est un titre de Ménoir.
Voilà, donc l'artiste dont vous
Exactement,
parliez tout
voilà,
à l'heure.
Tout à fait.
Alors on écoute La mer de Ménoir sur IDFM Radio Anguin. Toujours dans l'émission La Parole aux associations avec Hélène Savoie de Coréard et Kailash Sissoungkour de la maison Segaravan. Alors Kailash, est-ce que le Sega typique et la culture hindoue ont des points communs?
Alors il peut y avoir effectivement des points communs parce qu'en fait notre association, la maison du Segaravan, recherche en fait a pour but de sauvegarder la culture, le patrimoine culturel mauricien. Et on recherche effectivement l'origine du Sega. On est consciemment à la recherche parce que c'est dans quelques livres d'histoire ou quand on essaie de voir d'où c'est venu. Parce que l'île Maurice, c'est un mélange de cultures, comme je racontais tout à l'heure. Et en fait, on a découvert effectivement que le Ravan était un instrument joué aussi en Inde. Il y avait un instrument qui ressemblait à ça en Inde. Et même le mot Ravan est un nom utilisé chez les hindous. On se demande peut-être qu'il y a un lien. On se pose la question.
D'accord. Et alors, la maison Sega Ravan. Ravan, c'est pour l'instrument emblématique.
Tout à fait.
Et Sega, concrètement,
alors,
ça veut
Sega, c'est la culture. Sega, c'est la musique du Sega. Donc, c'est. Alors, je pense que beaucoup de monde ont peut-être déjà entendu certaines chansons Sega sans le savoir. D'ailleurs, Maxime Le Forestier a repris une chanson mauricienne. Alors, il avait découvert lorsqu'il est parti en vacances là-bas, qui s'appelle Ambalaba.
Ah oui, d'accord. Ça, bien. Je ne la chanterai pas, mais oui.
Ça faisait Ambalaba.
Voilà, bah vous, voilà, c'est très bien.
Ambalaba, Thomas Mossalad, Ambalaba. Donc ça faisait ça.
Et donc ça, c'est du Sega.
C'est du Sega, tout à fait.
D'accord. Et quand on dit Sega typique ?
Alors le Sega typique, pourquoi ? Parce que on dit Sega typique parce que c'est la musique qui est jouée avec les instruments, qu'on dit typique, c'est-à-dire les instruments fabriqués en bois, avec la peau de chèvre, et puis il a une sonorité assez particulière qui date de l'origine du Sega, qui a une musique qui a 100 ans, qui a plus de 100 ans, et qui a été reprise dans les années 50, 60 par certains musiciens mauriciens. Et le Sega typique préserve en fait cette identité-là. Contrairement au Sega moderne qui utilise des instruments plutôt modernes, les synthés, la guitare électrique, les batteries, etc., qu'on entend pour la variété maintenant mauricienne, qui est belle pour danser, effectivement, mais qui est différente de celle qu'on souhaite préserver aussi. Bon.
Alors, parmi ces instruments du Sega typique, on a la ravane. Est-ce que j'imagine qu'il y en a peut-être d'autres ?
Il y a la ravane, il y a le maravane. Le maravane, en fait, c'est une sorte de caisse dans laquelle il y a des graines et qui a une sonorité un peu comme les maracas.
D'accord.
Et ça donne un rythmique, une rythmique comme c'est comme on secoue du sable dans une caisse et que ça donne une sonorité comme ça. Et je l'ai pas amené aujourd'hui, mais bon.
Oui, parce que vous êtes venu avec vos ravanes.
J'ai quelques
plusieurs,
ravanes
plusieurs, il y en
moi.
A trois. Et en plus, vous m'avez dit celle-là, je l'ai faite.
Celle-ci,
à la maison Sega Ravan.
À la maison Sega Ravan, nous avons organisé un atelier de fabrication, donc sur plusieurs jours. Et c'est une ravane que j'ai fabriquée avec l'aide d'un maître artisan qui fait partie de l'association. Et donc voilà. La sonorité qu'elle peut donner.
Et vous jouez depuis combien de temps ? Vous apprenez à jouer depuis combien de temps ?
Ça fait 4 ans, à peu près 4 ans, 5 ans que j'ai commencé. Mais je vais me cacher parce que je ne suis pas assez persévérant ces derniers temps. C'est vrai que le rôle de papa me donne moins de temps depuis un an. Mais donc voilà.
C'est difficile à apprendre, la ravane ?
Il y a un apprentissage, effectivement. Je ne pense pas qu'elle soit très difficile, mais en un mois ou deux, avec un entraînement assez régulier, on peut apprendre les bases de la technique. Et d'ailleurs, en fait, on peut l'enseigner à des enfants. Ça peut être, l'association a déjà eu l'opportunité de l'enseigner, de la montrer dans certaines écoles, dans certains lieux comme... Les maisons de retraite aussi, quoi, pour leur faire une démonstration. Donc les enfants peuvent s'y mettre aussi. C'est un apprentissage de la musique et de la rythmique.
Donc vous donnez des cours, pas que de ravane, j'imagine que vous... La maravane...
Oui, en fait, on dit... dans le cours de ravane, il y a l'apprentissage de la ravane, la rythmique avec le triangle, qui est assez particulière dans le Sega, le maravane, qui est aussi une utilisation qui est beaucoup un peu plus technique que le simple maracas dont je parlais tout à l'heure, et qui est très physique parce que celui qui fait de la maravane finit en sueur.
Peut-être en que âge, des joueurs de maracas vous diraient la même chose.
Ah,
je
ne
suis
tout
pas
tout
musicien.
Fait,
mais oui.
Et
il y a le mac à la peau, je crois aussi.
Le mac à la peau, effectivement, il y a alors c'est un autre instrument qui est de la percussion aussi. Qui est à base de parfois il y a plusieurs instruments comme ça comme le bob aussi qui est un autre instrument qui est formé d'une coque d'un fruit on va dire qui est séché et donc on utilise la coque pour faire utiliser la vibration. Il y a aussi le calebasse qui est un autre comme une grosse courge on va dire qui est assez énorme qui est séché qui est, ensuite quand on tape dessus ça résonne comme une grosse percussion comme une grosse basse qui est assez impressionnant. Le bob dont je parlais, c'est une corde reliée à une petite caisse qui ressemble à une grosse noix de coco. Et selon comment on le joue, ça donne une vibration, une sonorité assez particulière. Et donc, il y a tout un tas d'instruments comme ça qui est à découvrir.
Et alors, qui sont vos adhérents à la Maison Sega Ravan ? Vous avez beaucoup d'adhérents, beaucoup de...
Alors,
Est-ce que c'est un public d'initiés, mauriciens ?
Non, Non, pas forcément. Effectivement, c'est un public qui est assez varié, hétéroclite, qui nous surprend d'année en année.
Vous savez ce qui leur donne envie de franchir?
C'est la découverte. Effectivement, c'est la découverte de nouvelles cultures, de nouveaux instruments, d'une nouvelle rythmique. Il y a 2 ans, 3 ans, nous avons eu une Vietnamienne très sympathique qui avait 40 ans, qui a voulu découvrir de nouveaux instruments et est tombée amoureuse du Sega. Nous avons beaucoup de communautés différentes qui viennent découvrir le Sega, le Ravani. Bien sûr, il y a beaucoup de Mauriciens qui cherchent, comme moi d'ailleurs, qui cherchent à redécouvrir
leur patrimoine,
voilà, comme moi, par exemple, qui grandit en France avec une culture pop rock occidentale. Même si avec ma famille on a conservé ce lien avec la musique de Sega, même la musique indienne, comme je fais partie de la communauté hindoue, on aime faire la fête, on aime écouter de la musique, donc on se sent préserver la nouvelle culture. Et beaucoup de Mauriciens comme moi en fait ont voulu effectivement redécouvrir l'essence, en fait, les origines du Sega.
Et alors moi, en préparant cette émission, j'ai découvert que le Sega, ou le Sega typique, vous allez me dire, était classé carrément patrimoine immatériel par l'UNESCO depuis 2014.
Effectivement, la maison du Sega Ravani y a participé aussi parce qu'elle a apporté le dossier à l'UNESCO.
D'accord, donc déjà, c'était ma question, c'est comment on en arrive à là, quoi ? C'est-à-dire que c'est une initiative collective.
Oui, c'est une collective, effectivement, initiée par Christian Sarah, le président de l'association, et Benoît Fleureau qui a été co-créateur de l'association, et d'autres personnes à l'époque. Je ne les connaissais pas, moi, à l'époque, mais je les ai rencontrés depuis. Des passionnés de l'île Maurice, de sa culture et de toutes tout ce qui est à trait, quoi. Et ensuite, quand ils décidaient, oui, qu'il y avait un devoir de mémoire à faire par rapport à tout ça et qui n'avait pas encore été fait et qui a été porté, ce dossier a été porté et à l'UNESCO, et depuis l'UNESCO a reconnu effectivement le Sega typique comme un patrimoine culturel universel.
Et ça, est-ce que c'est seulement, entre guillemets, seulement une reconnaissance de l'UNESCO? Est-ce qu'il y a des effets? Est-ce qu'il y a des financements supplémentaires pour continuer à développer votre
alors
activité?
Alors les financements, on les sollicite, on veut dire, il n'y a pas de financement direct, mais il y a au moins cette reconnaissance. Et ça permet d'avoir un appui, justement, ce fait d'avoir cette reconnaissance, ça nous permet d'avoir quelque chose de solide derrière nous lorsqu'on présente un dossier pour monter un programme, pour un événement, pour un concert, pour un festival.
Oui, c'est gage de reconnaissance, de sérieux. Mais vous avez évoqué la question du devoir de mémoire. Mais de mémoire de quoi ? Il y a quoi derrière le Sega typique en termes de devoir de mémoire ?
C'est cette culture musicale. Cette culture musicale qui est assez particulière.
Il vient d'où? Est-ce qu'il était chanté
Il était chanté, en fait, effectivement, le Sega est né de l'époque de la colonisation de l'île Maurice avec...
Est-ce que c'est un chant d'esclaves?
C'est des esclaves, on t'apportait cette chanson venant peut-être d'Afrique et d'ailleurs, surtout je pense d'Afrique. Et donc c'est des chansons qui racontent ce qui est le vécu. On peut assimiler ça peut-être à du blues ou de la soul. Et c'est les chansons qui racontent l'âme, la tristesse ou même la passion, la joie, même l'amour de ce que les gens vivaient à cette époque-là. Oui. Et c'est d'ailleurs ce qui est fait.
C'est toute cette histoire derrière le Sega typique aussi qui est reconnue aussi par l'UNESCO et qui est lourd de sens, j'imagine.
Oui.
Et il existe beaucoup d'associations en France qui font vivre le Sega typique ou il n'y a que la maison Sega Ravani?
Alors, la principale, effectivement, c'est la maison du Sega Ravani. Il y a d'autres associations qui permettent qui diffuse, enfin qui regroupe quelques musiciens de Sega pour jouer de la musique. Mais effectivement, la maison Sagaravan, c'est celle qui porte le plus l'histoire, en fait, culturelle.
Alors, je crois que vous avez bientôt une actualité qui nous concerne, nous, Valdoisiens.
Tout à fait, effectivement. À Saint-Gratien, lors du festival des...
Un monde des cultures, voilà. J'ai bien appris mes leçons.
Voilà. Donc, il y a le thème de cette année, c'est le soin indien. Et nous avons été contactés par la ville de Saint-Gratien pour promouvoir, en fait, le SEGA. Et donc nous allons jouer la maison de Sagaravan va participer à l'ouverture le 18 juin et ensuite va participer au défilé le 22 juin toujours à Saint-Gratien. Ça part du centre culturel Camille Claudel autour du square Josette Auguste. Et donc pourrez-vous nous y retrouver, nous allons tenir un stand, vous pouvez découvrir l'art culinaire aussi mauricien.
Vous y serez ?
Je vais essayer d'y être. Ça va être un peu compliqué ce jour-là parce que nous avons plusieurs programmes en même temps. Donc,
en tout cas, pour découvrir le SEGA typique et votre association, on sait où vous trouvez à Saint-Gratien entre le 18 et le 22 juin. Merci beaucoup à tous les deux, Hélène, Kayla, d'avoir partagé avec nous vos cultures et votre passion. On arrive à la fin de cette émission, mais avant de se quitter, comment on peut vous contacter ?
Alors, donc nous, c'est
Coréard.
Oui, Coréard, vous pouvez... Oui, excusez-moi. Donc Coréard, c'est vraiment à travers la maison des associations d'Herblay, puisque nous sommes... nous avons notre siège social là-bas. Donc j'ai une adresse mail aussi, association.coréard, donc coreart@gmail.com. Et aussi, moi, vous pouvez me contacter aussi, donc Hélène Savoie, sur mon adresse mail aussi. Hélène Savoie, donc tout attaché Savoie comme la Savoie, .dance, D-A-N-C-E, @gmail.com, et venir aussi me voir directement, puisque en fait on a une page Facebook aussi, mais étant donné que je suis en ce moment très très occupée avec mes spectacles de fin d'année, il vaut mieux que vous me contactiez par mail. Et notre site est en construction aussi, donc ce sera pour septembre qu'on aura un nouveau site, un beau site, voilà.
Et sinon, on vous voit le 21 juin.
Voilà, le 21 juin, exactement, donc près du Café du Commerce.
Merci, Kailash.
Alors, la maison du Sagaravan, essentiellement, vous pouvez nous trouver sur le site sagaravan.org et sur la page Facebook, la maison du Sagaravan. Vous pouvez nous solliciter, nous envoyer un message ou pour les demandes d'organisation d'événements.
Et puis vous avez un site quand même très complet aussi qui permet
Découvrir nos événements et nous contacter pour l'organisation de n'importe quel événement, concert.
J'ai été ravie de faire votre connaissance et je vous souhaite encore beaucoup de joie, de chant, de musique et de danse à partager sans modération. Un grand merci à Philippe pour la réalisation de cette émission. Je vous rappelle que si vous souhaitez participer à la parole aux associations, il vous suffit de nous contacter à l'adresse mail suivante contact@csa95.com. C'était Audrey Lamoly sur IDFM Radio Anguin. Je vous donne rendez-vous vendredi 21 juin à 14h. Je recevrai l'association sergissoise Boost Avenir. Bonne fin de semaine à tous. Thank you.
du 11 au 16 juin 2019.
La ville de Soisy-sous-Montmorency présente son festival.
La musique fait son cinéma.
Invité, Philippe Rombi, compositeur des plus belles musiques de films.
Une hirondelle a fait le printemps, Sous le sable, Joyeux Noël, Potiche, Bienvenue chez les ch'tis, Franz, Un homme et son chien, Astérix, Le domaine des dieux.
Mardi 11 juin, 19h, Orangerie du Val-Ombreux.
Rencontre avec le public, animé par Stéphane Le Rouge.
En présence de Philippe Rombi et des réalisateurs Christian Carion et Christophe Baratier.
Vendredi 14 juin, 20h30, Église Saint-Germain.
Concert, les musiques de films.